La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Donc, nous avons vu au XVIIIe siècle l'émergence d'une société nouvelle qui va répondre aussi en engagement, en proposant des réponses à toutes ces questions qui se posent. Il y a d'abord ce qu'on appelle les courants hygiénistes. Alors, au début de la société industrielle, et alors que ces dysfonctionnements apparaissent avec violence, comme une brisure, une cassure, une rupture de la société traditionnelle, apparaît une nouvelle approche qui débouchera sur la sociologie. Les conceptions dites hygiénistes envisagent la société comme un corps dont il faut analyser les maux en vue de les guérir. Face à ce corps souffrant, il s'agit en premier lieu de connaître les maux dont il souffre. Pour ce faire, sont diligentées les premières enquêtes sociologiques avant l'heure, qui offrent de précieux renseignements sur différentes catégories sociales et leur mode de vie, avec des enquêtes à vue humanitaire sur la misère, la prostitution, la délinquance, la criminalité. Ces courants proposent une vision morale, cherchant à préserver l'ordre social, les classes sociales se différenciant légitimement les unes des autres, sans être fondamentalement antagonistes. Pour ce faire, cela suppose un engagement dans la lutte contre la pauvreté, vue non comme une fatalité, mais comme une maladie sociale, qu'il faut guérir. Il s'agit de promouvoir l'hygiène du corps social selon une conception quasi-sanitaire. Notons que cette perspective, conservatrice socialement, offre une perspective positiviste au sens scientifique du terme, et selon un a priori positif, puisque refusant de considérer la misère et la souffrance comme des fatalités. On aurait beaucoup à apprendre de cet a priori positif aujourd'hui. Il s'agit de connaître la misère et la souffrance pour les soulager. Ce faisant, et notamment par le biais de l'enquête, la conception morale concerne les maux sociaux et amène à renoncer à la condamnation des personnes. La débauche, par exemple, n'est plus simplement le signe d'une carence personnelle, mais le fruit d'un engrenage dans lequel les maux sociaux sont des facteurs très importants, voire déterminants. Mais en évaluer les fruits oblige à remarquer que ces approches hygiénistes ne prennent pas suffisamment en compte la gravité de la situation. La violence et la haine mortifère que la misère engendre, dans une exaspération due aux conditions de vie sous-humaines du monde ouvrier, une désespérance qui ferme à une Église perçue comme l'alliée des privilégiés et qui ouvre grand la porte à l'athéisme. La deuxième réponse de la société, ce sont les courants socialistes. Alors si les courants hygiénistes se présentaient avec des positions novatrices, courageuses et volontaristes, ils n'en demeuraient pas moins conservateurs quant à la situation respective des différentes classes sociales. Il n'en sera pas de même avec les courants socialistes, qui, eux, postulent un antagonisme irréconciliable entre les diverses classes sociales. Il convient ici encore de parler au pluriel, car le marxisme ne résume pas à lui tout seul le socialisme, même s'il est naturellement incontournable et constituera le lieu principal d'affrontement avec l'Église du fait du soi-disant athéisme affirmé de Karl Marx. Les différents courants socialistes sont porteurs d'un projet similaire inscrit dans une analyse scientifique des mécanismes sociaux qui régissent la société industrielle au milieu du XIXe siècle et des dysfonctionnements qu'ils provoquent. Leur différence par rapport aux hygiénistes est leur prise en compte de la structuration du corps social. L'existence de groupes sociaux animés par un fonctionnement propre sans le penser comme un grand corps social malade. Ces groupes sociaux doivent être étudiés, considérés, écoutés pour eux-mêmes, car un groupe social, comme l'attestera la sociologie naissante, ce n'est pas seulement la somme des individus qui le composent. Il est constitué de structures, d'usages, de pratiques, de représentation collective, d'une culture, de valeurs, d'idéaux qui s'institutionnalisent dans des cadres sociaux. Pour les approches socialistes, la résolution des misères sociales passe par le registre du politique et une étude rigoureuse des phénomènes de l'économie. On voit bien ici l'opposition entre Église et courant socialiste. Pour autant, il y a, me semble-t-il, des points communs qu'il serait bon d'approfondir. Différents courants socialistes se présentent donc à partir du XVIIIe siècle. Il y a les réformateurs sociaux, dits socialistes utopiques, avec Saint-Simon, Proudhon et Charles Fourier, d'autres réformistes utopiques, d'inspiration chrétienne, d'où l'expression « christianisme social », qui surgit en 1843 sous la plume de Hippolyte de Lamorvonnais. Alors, ce qui est commun aux socialistes utopistes, c'est la dénonciation permanente de l'injustice du système économique dans lequel les intérêts privés manipulent les individus à leur bénéfice, créant des conditions de vie inhumaines et immorales pour le prolétariat. Comme vous pouvez le constater, c'est une intuition qui relève des groupes socialistes utopistes que l'Église, finalement, un siècle et demi après, a récupéré, entre guillemets, dans la doctrine sociale de l'Église et différentes, encycliques, et même le Concile Vatican II reprend d'une certaine façon certaines idées. Il y a toujours un temps de décalage entre ce qui se transforme dans la société réelle et l'esprit qui souffle sur l'Église pour qu'elle s'adapte à ces conditions nouvelles. Alors en France, à ce moment-là, cette prise de conscience se fait à la lumière de ce que la Révolution française a voulu construire en termes de liberté et de dignité des personnes. C'est comme si celle-ci n'avait pas porté juste fruit. Le prolétariat est l'aiguillon de la conscience humaine, du fait de l'injustice qui est faite à cette classe sociale. Alors il y a aussi l'analyse marxiste, qui fait fond de cette analyse de l'injustice criante des masses, tout en s'en détachant par son insistance sur le conflit social qui, à son sens, structure la société. Karl Marx et ses successeurs cherchent à rendre compte des phénomènes et des structures de la vie économique dans le rapport conflictuel. Pour Marx, l'économie classique manque de perspicacité. Elle ne comprend pas combien les ressorts même de l'économie ne permettent pas d'en envisager une réforme. Car ces règles sont non modifiables. Elles engendrent naturellement le profit d'un côté et l'injustice en regard, en en faisant une structure sociale. C'est pourquoi, au cœur de l'idéologie marxiste, se trouve la prééminence de l'économique et le concept de lutte des classes qu'elle génère comme moteur de l'histoire depuis aussi longtemps qu'existe la structure économique que nous connaissons. Je m'arrête quelques secondes sur cette partie où, effectivement, il est dit que le capitalisme, dénoncé notamment par le pape François à l'excès, est marqué par l'injustice criante des masses et donc envisage la réforme de l'économie parce que l'économie ou l'économisme libéral ne correspond pas au bien commun. Donc revenons à Rerum Novarum qui marque le moment clé en quelque sorte d'officialisation de la position de l'Église catholique face au courant socialiste et à l'époque la condamnation est très forte. Et si elle est aussi virulente, c'est qu'au-delà de l'athéisme, beaucoup de différences conceptuelles existent avec la foi chrétienne. Alors que retenir de ces courants, rapidement ? La mise en évidence de la dimension sociale structurelle de l'injustice. La structuration des différentes classes constituées au cours de l'histoire. Tous les hommes sont prisonniers du système. C'est le système qui est vicié et qui aliène. L'ordre social, en conséquence, ne peut pas être amélioré, il ne peut qu'être renversé par la révolution prolétarienne. Il y a beaucoup d'excès, mais il y a aussi le fait de ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. Merci.